éminent. Nous allons prendre le cas d'un roi éminent qui est Salomon. Rappelez-vous que Jésus a dit dans Luc chapitre 12 que l'Élysée des champs était mieux habillée que Salomon, était revêtue d'une gloire supérieure à celle de Salomon, ce qui veut dire que pour Jésus, Salomon n'avait pas de gloire. C'est clair, évidemment, à cause du péché, alors qu'il avait d'énormes possibilités données par Dieu, et je dirais que notre monde a d'énormes possibilités données par Dieu, comme Salomon. Qu'est-ce qu'il en fait, hein? Et donc, cette gloire que les gens donnaient à Salomon, c'est un peu comme la gloire qu'on donne à tous les gens, les dirigeants d'aujourd'hui. Et pour Dieu, c'est pas une gloire, c'est une déchéance, hein? Donc nous allons voir que Salomon joue quelque chose qu'il a reçu et il est en train de tout perdre. Donc, premier livre des rois, chapitre 9, Salomon, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, tout ce qu'il lui plut de faire, ça a pris 20 ans, hein, de 990 avant Jésus à 970. Et le temple est entré en fonction en 970 avant Jésus. Ça a 20 ans pour faire un beau temple et pour faire un beau palais et la maison du roi, etc., un trône magnifique, enfin. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu aime tout de même Salomon. Il aime Israël. Et qu'il persiste à aimer malgré un petit peu ce qui se prépare. Dieu est fidèle à lui-même. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Donc, retenez tout de même que même s'il y a une mosquée pour le moment, le nom de Dieu est la finalité de l'endroit central de Jérusalem, et pas la mosquée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous imaginez, cet endroit-là à Jérusalem, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quand on visite Israël, hein, j'y étais une fois, on peut le visiter avec des états intérieurs et spirituels et moraux tout à fait différents, d'un à l'autre, dans tous les voyageurs. Moi je dis franchement, j'avais 60 ans, depuis l'âge de 16 ans je croyais dans le Seigneur, et je n'étais jamais monté dans un avion, je suis monté dans ce tas de ferraille parce que mes yeux et mon cœur voulaient voir le pays du Seigneur. Et voir à toutes ces promesses, et peu importe si l'avion serait crashé en revenant, j'avais vu et j'avais connu, c'était mon but. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Évidemment, vers les années 1995 avant Jésus, le prophète Gad et le prophète Nathan sont venus dire à David qu'il y aurait un trône avec un roi éternel sur ce trône. C'est clair, ça s'accomplira, c'est le trône de Christ, le descendant de David. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc, finalement, Dieu est capable de tenir une promesse en dépit de toutes les vicissitudes qu'apportent les hommes dans l'histoire. Et ce qui se passe, c'est que il y a des si dans le texte. Vous voyez, si. Si tu marches en ma présence, comme a marché David, c'était déjà pas brillant pour David, il n'a pas pu construire le temple. Parce que c'était un homme de sang, Dieu lui a dit. Donc c'est ton fils qu'il bâtira. Mais qu'est-ce que va faire le fils, lui? Ben, on va voir dans la suite des textes. Bon, maintenant, le si, ça s'adresse à l'homme. Il n'y a pas de si pour Dieu. Ce qu'il a décidé, il le fait. Maintenant, il y a encore un si, c'est du verset 6 à 9. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, si vous allez servir d'autres dieux et que vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays et cette maison? Et l'on répondra, verset 9, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Évidemment, quand le calife Omar, qui venait de Damas, a conquis Jérusalem, le lieu du parvis du temple de Salomon, au milieu de Jérusalem, il n'y avait plus de temple, évidemment, il n'y avait plus que quelques ruines, mais ce qu'il y a, toutes les églises orthodoxes arméniennes et tout ça, qui avaient poussé tout alentour, n'avaient aucun respect pour l'endroit. On retrouvait sur cet endroit, choisi par Dieu, des détritus, des poubelles de tout. Donc, par exemple, ce que connaît par exemple Bunyan dans l'Érythrée, les orthodoxes, les coptes, etc., les arméniens, tous les chrétiens orthodoxes de Constantinople, c'était l'endroit, leur déchetterie. Quand le calife Omar est arrivé, il a tout fait virer et jeter dans la vallée de Géhen, tout nettoyé. Et il n'a pas osé fouler l'endroit, il avait un grand respect de cet endroit. Il a fait construire sa mosquée à quelques centaines de mètres, la mosquée d'Omar. C'est le calife suivant qui a fait construire la mosquée qui est actuelle sur le lieu même. Et pas à l'endroit du Saint des Saints, par respect. L'endroit du Saint des Saints, il y a des petites colonnades avec une coupole un peu plus loin. Alors, le lieu du rocher où Abraham avait amené Isaac, pour le sacrifice. Donc, ils ont eu du respect. Et le peuple de Dieu n'en avait pas. Vous imaginez à quel point les choses vont loin. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce chapitre, sur ces paroles-là, vous allez lire dans le Deutéronome, il y a beaucoup à lire dans la Bible, régulièrement. Et bien, vous allez lire dans le Deutéronome, chapitre 20, 6 à 28. Tout ce qui est dit là, en quelques versets, a été annoncé dans les détails par Moïse à ce peuple. Si tu es fidèle, voilà toutes les bénédictions. Si tu es infidèle, voilà toutes les malédictions. Ok ? Deutéronome 26 à 28. Malgré toutes ces prédictions de Moïse et les prophéties des autres prophètes, ils s'en fichaient. Royalement. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que Salomon est averti. Salomon est aussi averti par Dieu. Verset 12, un premier livre des rois, chapitre 9, verset 12. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel, la maison du roi. Nous sommes en 970 avant Jésus. Alors, nous allons voir, 970 pour les Français, nous allons voir quelque chose, c'est qu'il y a des collaborateurs, des puissances collaboratrices alentour. D'abord, Tyr et Sidon, le roi Hiram, au verset 11, chapitre 9, verset 11. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre, des bois de cyprès, de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Pourquoi est-ce que Salomon donne des terres d'Israël, des terres promises par Dieu à ce peuple, à un roi qui fait des sacrifices humains, qui a des statues, des divinités? Allez, déjà, il commence déjà. Les amis, quand vous avez quelqu'un qui vous rend service et qui est ennemi de Dieu, rendez grâce à Dieu que cet homme ou cette femme vous rend service. Mais ne faites pas de compromis avec la personne. Vous commencez déjà à vous couler si vous faites ça. Vous commencez déjà à mettre la main dans l'engrenage. Parce que vous confondez. Dieu peut se servir d'un ennemi, d'une personne indifférente pour vous rendre service. C'est à Dieu que vous devez dire merci. Vous allez bénir cette femme ou cet homme ou ce groupe, cette institution ou cette entreprise qui vous a aidé, vous allez les bénir, vous allez prier pour, mais vous ne devez pas faire des platitudes et des cadeaux. Dieu ne vous le demande pas. Parce que vous flattez l'autre et vous l'encouragez dans son mal, il ne voit pas. Il ne voit pas où il pêche. Et il pense que vous êtes d'accord avec son péché. Parce que vous lui donnez des signes d'encouragement dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Or, vous devenez complice d'un état de péché chez quelqu'un qui devrait se repentir et changer. Alors, Hiram, roi de Tyr, va recevoir 20 villes. Et il ne sera pas content, bien entendu. Ben oui, il en aurait voulu plus, et des plus belles, et des plus grosses. Vous voyez, c'est un cadeau raté. C'est un cadeau raté. Parce qu'un pécheur n'est jamais content. Un pécheur n'est jamais content d'un cadeau donné par un croyant. Il lui en faut toujours plus. Pourquoi ? Parce que son maître, c'est la convoitise. La convoitise, c'est l'expression même du péché. C'est le péché qui le domine. Ce ne sera pas la gratitude et la conversion. Alors, vous avez toute une série de versets qui vous montrent qu'il n'est pas content, bien sûr. Et peu importe, vous faites le détail, vous regarderez vous-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Salomon va aussi avoir des collaborations avec d'autres. Au verset 16, chapitre 9, verset 16, Pharaon, roi d'Égypte, qui était venu s'emparer d'une ville qui s'appelle Gézer, l'avait incendiée, avait tué des Cananéens qui sont ennemis de Salomon, et puis il l'avait donné pour dot à sa fille, fameux Salomon. Salomon. Bon, pratiquement, tout ça c'est sur un territoire que Dieu a promis à Salomon. Eh bien, Salomon va accepter, bien sûr, et il va vivre avec cette femme. Au verset 24, la fille de Pharaon monta de la cité de David, donc il va vivre avec cette femme, et puis elle va aller s'installer à Gézer, dans sa maison que Salomon lui avait construite. Donc Salomon se compromet avec Pharaon sur une ville conquise par Pharaon dans un territoire que Dieu a donné à Israël, qui appartient provisoirement aux Cananéens. Et il marie une Égyptienne. Chez les Égyptiens, on adore Isis, Osiris, etc., tous les dieux, et le veau d'or aussi, la déesse Amon, avec le disque d'or entre les cornes, la vache de la fertilité, la déesse de la fertilité, de la prospérité matérielle. Et alors, mais les amis, Salomon, on dirait qu'il ne voit plus clair, où est sa sagesse ? Pourtant, plein de gens vont venir à Jérusalem pour admirer la sagesse de Salomon. Ça veut dire quoi ? Ben, que les pécheurs ne savent pas ce que c'est que la sagesse, que les aveugles ne savent pas voir clair, et que ce que l'apparente sagesse de Salomon n'est pas de la sagesse pour Dieu. C'est de la sagesse pour le monde. Donc aujourd'hui, les amis, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter la sagesse du monde. Il ne faut pas nous laisser pourrir la conscience par la fausse sagesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que il y a bien sûr d'autres choses. C'est que Salomon construit plein de villes, bien sûr, avec des réserves incroyables, et avec de la cavalerie, énormément de cavalerie. Et il va avoir beaucoup de cavaliers, énormément de cavaliers, et tout ça c'est interdit par Dieu. Il est interdit à Israël de se confier dans les jarrets des chevaux, dans la puissance militaire, parce que la puissance d'Israël c'est Dieu. Dieu l'a toujours demandé à Israël, de se confier en Dieu. Et vous et moi, chers amis, en quoi on se confie ? En qui ? Alors, regardez bien au verset 19, « Toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était souverain. » Et vous savez que ce pays de Salomon s'étendait jusqu'à l'Euphrate en Turquie, Hamath. Jusque dans la Turquie, sur l'Euphrate. une partie de la Jordanie, de la Syrie, et jusqu'à la moitié du désert du Sinaï. Et il avait énormément de cavalerie. Or, c'était strictement interdit à tous les rois d'Israël, les rois de Juda, d'avoir de la cavalerie et des chars. Parce que c'était l'expression de l'orgueil de la puissance militaire. Et c'était donc de l'idolâtrie. Parce que le vrai défenseur d'Israël, c'est Dieu. Et donc, il a fait quelque chose qui était une faute grave pour Dieu. Dieu est patient avec les pécheurs, même avec ses enfants. Très patient. Alors, plus loin, nous voyons encore dans ce chapitre 9 que Salomon est un grand pratiquant, un homme religieux. Au verset 25, Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qui avait averti à l'Éternel. Il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. On voit que c'est impeccable. Au niveau de la pratique religieuse, c'est net. Hein? C'est beau. Et sûrement qu'il y a des beaux musiciens, des beaux chanteurs et tout le reste. Si l'homme se laisse séduire par ça, Dieu pas. Mes amis, c'est ça le truc. Dieu pas. Alors, au verset 26, le roi Salomon construisit des navires à Etchon-Guéber, près d'Elot. Elot, c'est Eilat. Vous savez, dans le golfe d'Aqaba, hein, la mer Rouge, il y a un golfe qui va. Et à droite, il y a l'Arabie. Au-dessus, il y a la Jordanie et Israël. À gauche, il y a l'Égypte, avec le désert du Sinaï. Donc, il y a là, à Eilat, à quelques kilomètres l'un de l'autre, quatre pays, qui donnent sur ce golfe d'Aqaba, et qui donnent accès à la mer Rouge, à l'océan Indien, et depuis qu'il y a le canal de Suez, à la Méditerranée. Et donc, le roi Salomon, verset 26, construisit des navires près d'Eilat, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Donc, il fait fabriquer ses bateaux par les Édomites. Pourquoi ? Parce que la Jordanie actuelle, qui n'est plus qu'un tas de cailloux, un tas de sable, à cette époque-là était couverte de forêts et de prairies, autant que la Belgique et la France. Toutes vertes. Complètement vertes, avec des forêts et tout. Comme la Grèce aussi, comme toute l'Espagne, et une partie du Sahara. Alors, vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « La forêt précède l'homme, le désert suit l'homme. » Et Hiram envoya sur ses navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer, donc les Phéniciens, des experts dans le commerce maritime sur la Méditerranée. Ils allèrent à Ophir, donc c'est le sud du Yémen, c'est le sud de l'Arabie, et ils prirent de l'or, 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Une fortune, hein, colossale. Donc, voilà, le commerce de l'or. Le commerce de l'or, donc, business. Le business. Bien sûr, en envoyant des bateaux là-bas, il y a une reine très jolie et très sympathique qui va s'intéresser à Salomon, qui va apprendre qu'il y a un roi là-bas qui est formidable, etc. Et c'est la reine de Saba. Nous allons passer au chapitre 10. Et dans ce chapitre 10, nous voyons que la reine de Saba va avoir une grande importance dans la vie de Salomon. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes, verset 1, chapitre 10, verset 1. Donc elle a l'idée de l'éprouver. Donc ce n'est pas une femme stupide, ce n'est pas une femme qui va dire oui, amen à tout. Elle va le tester, elle va le sonder. Et si possible, le manipuler. Oui, les amis. Les hommes qui se croient forts, qui sont menés par le bout du nez, par une ou des femmes. C'est souvent ça. Verset 2, elle arriva. Ça a déjà commencé avec Adam, hein. Elle a écouté Satan et Adam a suivi. La maladie semble chronique. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Donc elle connaît les points sensibles de Salomon, le matérialisme, le mercantilisme. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. La voilà qui est en train de se confier, en voilà qui est en train de vider son cœur. Vous imaginez comme ça fait plaisir à un homme qui est fier, qui a un but de sa personne. Il n'y a rien de tel pour avoir un homme. Il n'y a rien de tel pour le mettre dans sa poche. Rien de tel. Ça marche à tous les coups. Sauf à quelqu'un qui est vraiment attaché au Seigneur, à Dieu. Qui se dit, oula. Salomon répondit à toutes ces questions, il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. Ça y est, il marche dedans. Il répond, alors il passe des heures, des jours, des semaines avec elle. Forcément. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les met à sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, ses échansons, donc ceux qui fournissent le vin, etc. Ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Regardez le mot « hors d'elle-même ». Ça y est, l'adrénaline à tout coup. Je m'excuse, mes amis, il faut bien que je sois très concret. Les hormones à tout coup. L'adrénaline à tout coup. Les passions qui dévorent. Et où est la sagesse de Salomon ? Cette femme, maintenant, c'est un volcan. Et comment peut-il échapper au volcan ? Nous avons dans notre vie mille et une occasions de nous planter de la même façon, de faire les mêmes égarements. Nous avons, et c'est valable pour les femmes aussi, avec certains hommes, nous avons toujours l'occasion de chuter terriblement si nous laissons les passions conduire nos cœurs, notre esprit. Si notre esprit, notre cœur n'appartient pas au Seigneur entièrement, attention, le diable est malin. Il entoure, et puis il resserre son étreinte. Le péché est très puissant, les amis. Une fois que notre cœur est amorcé par le péché, ça y est, on est pris au piège de notre péché. Il y en a qui deviennent misogynes et qui disent que tous les problèmes viennent de la femme. Et c'est pour ça que dans l'islam, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut qu'elle soit habillée de la tête aux pieds, à burqa, à petite fenêtre, parce que tous les problèmes sur la terre, 90% c'est dû à la femme. Mais c'est pas vrai, c'est dû au péché. Karl Marx avait dit que tous les problèmes sur la terre, c'était dû à la religion. Pendant 70 ans en Russie, il n'y a pas eu de religion, on a tué tout le monde, il y a eu plein de problèmes et d'injustices. Parce que le vrai problème, c'est le péché. Ce n'est pas la religion. Il y a des gens religieux très bien, et il y a des gens religieux tordus. Comme il y a des femmes très bien, et des femmes tordues. Comme il y a des hommes très bien, et des hommes tordus. C'est le péché le problème. Hors d'elle-même, donc, ça y est, elle bouillonne. Comment la freiner, comment la reculer maintenant ? Mon cher Salomon, tu l'as allumée, comment vas-tu échapper ? Surtout qu'elle est très belle et très intelligente. Donc elle le flatte, c'est donc vrai ce que j'ai appris, elle le flatte. Verset 7, je ne le croyais pas avant d'être venu d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Oh là là. Vous savez que la flatterie est dangereuse. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous flatte, dites-vous bien, fais gaffe, Lano. Recule un petit peu, fais gaffe. La flatterie, c'est le début de votre chute, si vous y prenez goût. Alors, elle va dire au verset 7, « Tu as plus de sagesse et de prospérité que le renommé nous l'avait fait connaître. » Verset 8, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Savez-vous ce que Jésus a dit ? Hein, quand on disait « Heureux ta mère qui a nourri les saints qui t'ont nourri », Jésus a dit « Heureux celui qui fait la volonté de mon Père ». Heureux celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà ce que Jésus a dit. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Donc elle bénit le Dieu d'Israël alors qu'elle n'est pas juive, elle n'est pas croyante. Rappelez-vous dans la synagogue de Capernaum, et de Nazareth, quand Jésus commence à prêcher, Il y a des gens possédés de Satan qui disent « Tu es le Saint d'Israël, tu es le véritable, tu es le Messie. » Et Jésus les fit taire et fit sortir. Vous voyez bien qu'avec Jésus, ça ne marche pas. Mais toute la foule dans la synagogue, ça marchait. Les gens étaient « Ah, qu'est-ce qu'il prie bien, qu'est-ce qu'elle prie bien ?» Et donc, vous voyez, c'est la même chose. Il doit avoir l'impression qu'elle communie au même Dieu que lui. Hein ? Et elle donna, verset 10, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba donna au roi Salomon. Quand Jésus est dans la crèche de Nazareth, de Bethléem, tout près des bœufs et de l'âne, et que les rois mages apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ni Joseph, ni Marie, ni Jésus n'ont été séduits. Ils n'ont pas été séduits. Ils ont été avertis par l'ange et ils sont partis en Égypte. S'ils avaient été séduits, ils restaient. Et M. Hérode les tuait. Ils n'ont pas été séduits. Ils ont continué à être conduits par Dieu. Verset 11. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et de pierres précieuses. Le bois de sandales, ce n'est pas des sandalettes, hein, ce n'est pas des chaussures. Hein. C'est une sorte de bois parfumé. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel, pour la maison du roi, des harpes et des luttes pour les chantres. C'est un bois précieux. Il ne vint plus de ce bois de sandales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Les amis, donc il est impressionné par tous ces cadeaux. Et cette femme est très riche, c'est une reine. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira et qu'elle demanda. Vous voyez ici, Salomon lui donna tout ce qu'elle désira. Je vous passe les détails, hein. Ça va? C'est une love story, hein. Love story, hein. Eh oui, ça peut être dans la revue Femme d'aujourd'hui, hein. Ça peut être dans Télé Moustique, hein. Ça peut être dans L'Avenir du Luxembourg. Ça peut passer à la TV. On peut en faire un film à Hollywood. Il n'y a pas de problème. Les amis, la sagesse de Salomon, c'était pour les païens. Les païens ont cru qu'il était sage. Quand on regarde Jésus, il n'a pas la gloire d'un lys des champs. Pour Dieu, la sagesse, elle est partie en fumée, évaporée. C'est un grand avertissement pour nous, les amis. Un très grand avertissement. Faisons attention comment nous vivons, comment nous fonctionnons. Ça va ? Alors, au chapitre 10, verset 14, nous voyons qu'il trafique, il fait du commerce régulier avec l'Arabie. Or, l'Arabie, c'est Ismaël. Ok ? C'est Ismaël. Ismaël, c'est les marchands d'esclaves, etc. C'est beaucoup de choses. C'est Amraphel, c'est l'étoile à cinq branches. L'étoile à cinq branches est l'étoile en opposition à l'étoile à six branches. L'étoile de David est à six branches. L'étoile à cinq branches, elle est dans le hard metal, le hard rock. Elle est sur les drapeaux musulmans, le drapeau des États-Unis aussi, c'est bizarre. Et pratiquement, c'est l'étoile de tous les groupes sataniques. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Donc l'Arabie est un partenaire essentiel de Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour les mettre où ? Dans sa maison et dans le temple. Alors, regardons au verset 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Pour qui ? Pour Dieu ? Non, pour lui. Pour lui, hein. Alors, regardez le détail de ce trône, c'est incroyable. Hein ? Alors, au verset 22, le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les trois ans arrivaient des navires de Tarsis apportant de l'or, et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Donc pratiquement, Tarsis, c'est dans l'océan Atlantique, c'est sur c'est en Espagne, c'est Aragon. Et c'était un des derniers comptoirs des Phéniciens, très riches, hein, extrêmement riches, et des singes, etc., ça venait d'Afrique. Donc ce n'est pas seulement avec Vasco de Gama et tous les autres qu'on a commencé à exploiter l'Afrique. Déjà depuis très longtemps, à Tarsis, on partait vers l'Afrique, les côtes africaines, pour aller ramasser des richesses. Et donc de là, repartir vers Salomon, ce n'était pas si difficile que ça. Alors, le colonialisme, il est vieux, vous savez, comme le péché d'Adam et Ève, il est vieux. Chacun apportait son présent, des objets d'argent, etc. Hein? Verset 24, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et donc, on offre des aromates, des chevaux, des mulets, on offre toujours. Au verset 26, Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire. Moi, quand j'étais petit, il y avait une banque ou deux à Virton. Quand j'avais l'entreprise, je me rappelle, vers les années 80, l'entreprise, j'ai vu des agences de 3-4 banques ouvrir à Saint-Léger, puis à Aide, etc., dans toutes les localités. Et je parlais avec Denis de Coucker, qui était ingénieur flamand et qui travaillait dans le bureau. Il a dit, voilà, ça c'est les signes de la décadence qui s'installe dans la région. L'argent était partout. Et vous avez les cartes magnétiques, plein les portefeuilles, vous allez où vous voulez. L'argent est partout. Enfin, l'illusion de l'argent est partout. Parce que l'argent, il y a toujours un maître. Donc, l'illusion d'argent est toujours partout. Et c'était comme ça pour Salomon. Il n'avait pas encore les appareils bancaires avec les cartes, mais c'était tout comme. Alors, on voit même les prix des chars, etc., du commerce avec l'Égypte, alors que Dieu l'a interdit. Au chapitre 11, nous voyons les femmes païennes qui prennent le pouvoir. C'est plus Salomon qui a le pouvoir. Chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, donc c'est Jordanie, des Ammonites, Jordanie, Édomites, Jordanie, des Sidoniennes, c'est le Liban, des Éthiennes, les Hittites c'est sur la côte, et d'où ils viennent, l'île de Chypre, l'île de Crète, Turquie. Pourquoi est-ce qu'ils viennent de là-bas? Parce que il y avait d'énormes exodes d'Asie centrale, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, etc., qui ont chassé les populations de Turquie vers le sud, vers l'île de Chypre, de Crète, vers l'Égypte, etc. Et tous ces Hittites étaient des spécialistes de l'acier, des armes. Donc des Éthiennes, c'est des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles. » Elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Enfin, ceux qui croient est de l'amour, hein. Disons les passions. Hein? Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Moi, je pense que ce n'est pas les femmes qui détournent son cœur. C'est la puissance du péché qui détourne le cœur. Et on a l'art d'accuser les femmes. Ben oui, on a l'art d'accuser les femmes. Regardez bien, Adam, quand Dieu vient dans le paradis terrestre et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as péché? C'est la femme que tu m'as donnée. Ben oui, hein. C'est plus facile de se débiner et d'accuser quelqu'un d'autre. L'accusation est un trait du péché. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Tout ça c'est bien, hein, mais David était aussi un champion, hein, avec les femmes. Salomon alla après Astarté, donc Astarté c'est en hébreu, Ashéra en araméen, c'est la déesse de Babylone, la grande déesse, qui avait des apparitions en blanc à Babylone, déjà 10-12 siècles avant Jésus. C'est la même que Artémis en Grèce. Hein? Ça s'est transposé après avec l'empereur romain, Marie, mère de Dieu. Hein? Alors, Astarté, divinité des Sidoniens, Milcom, l'abomination des Ammonites, parce que sacrifice humain, Salomon, fils, qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. Donc j'ai visité ces endroits-là. Donc en face de l'endroit où il y a le temple, en face, voilà un temple pour Kémosh. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Avec des sacrifices humains dans la ville de Jérusalem, les amis. Et avec des prêtres païens. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Aujourd'hui, les amis, dans notre civilisation, tout est autorisé, comme à l'époque de Salomon. Tout est autorisé, tout se pratique. Et tout est béni par les responsables. Et tout est autorisé, et même les prophètes. Le pape de Rome, quand il a parlé à la communauté européenne à Strasbourg, il a fait deux discours. Que je les ai suivis, je me suis assis avec ma femme, on est rarement dans le fauteuil, eh bien, on les a suivis. Jamais ni Jésus-Christ, ni Dieu. Jamais dénoncer quoi que ce soit. Toujours flatter les gens. C'est un vrai prophète? Ou c'est un faux? L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Alors, vous voyez que tout se prépare pour les sanctions. Les sanctions vont venir. Vous voyez bien, les amis, que quelqu'un qui était aimé par Dieu, qui était béni, qui a eu beaucoup de bénédictions, se moque éperdument de Dieu. Eh bien, l'Europe a fait ça. L'Europe a fait ça. Et il continue. Et regardez bien maintenant les sanctions. Analysez-les, chers amis. La décision de Dieu, chapitre 10, versets 11 à 13. Versets 11 à 13. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Imaginez, et je le donnerai à ton serviteur. Est-ce que l'Europe n'a pas été déchirée par des grandes guerres? L'Europe chrétienne. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Ensuite, application de la sanction. Premier point. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite. Donc c'est un Jordanien, une partie de la Jordanie. De la race royale d'Édom. Voilà. Et donc, ce Hadad va animer des gens, des troupes contre Salomon, contre le royaume. Et il va aller en Égypte, se réfugier en Égypte. Et en Égypte, il va être bien accueilli. L'Égypte, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un fourre-tout général de tous les ennemis d'Israël. Mais l'Égypte paraît amie d'Israël, comme l'Égypte paraissait amie de Salomon. Mais c'est le fourre-tout, tout le repère de tous les vrais ennemis. Alors, la complicité de l'Égypte, au chapitre 11, versets 18 à 22, vous la voyez, bien sûr, il va être accueilli, mais incroyable. Je vais lire seulement le verset 19. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpénès. Mais Pharaon avait donné sa fille aussi à Salomon. Il n'y a pas de problème, Pharaon. S'il faut donner une femme, et après il se dit, je les tiens tous. Vous voyez, Pharaon, il distribue des femmes, lui. Les amis, la sexualité a toujours été le piège des hommes politiques et des hommes religieux et des hommes dans la finance. Donnez-leur des femmes, vous en ferez ce que vous voudrez. N'oubliez jamais ça. Et quand vous les avez tenus, vous les tenez bien. Hein. Alors, la complicité de l'Égypte, c'est pas un innocent, hein, ce pharaon. Et il va jusqu'au point de lui dire, au verset 22, « Que te manque-t-il auprès de moi ? Pourquoi tu désires aller dans ton pays ?» Vous imaginez ? Vas-y, cadeau, séduction, séduction, séduction. Mais non, pas du tout, ça ne va pas comme ça. Monsieur Hadad a une haine de Salomon et d'Israël. Il veut l'assouvir. Et c'est un Édomite. Croyez-vous que la Jordanie aujourd'hui, qui est amie d'Israël, sera toujours ami d'Israël? Jamais. Il y a des textes qui montrent que c'est faux. La Jordanie a déjà attaqué Israël en 67 avec la Syrie et l'Égypte. Pour le moment, c'est une fausse paix. Comment voulez-vous que je sois ami avec Israël si dans le livre que je lis, qui s'appelle le Coran, le juif est un fils de singe? Je serre ma main et je signe un accord de paix, je signe qu'un singe. Est-ce que ça a de la valeur? Donc vous voyez, c'est déjà piégé. Alors continuons. Regardons bien les ennemis qui sont là, parce que c'est les ennemis quasiment de toujours, hein, et d'aujourd'hui et de demain. Il y a quelqu'un d'autre, de la Syrie. Et tout ça avec la permission de Dieu, hein, pour sanctionner Israël. Alors, regardez bien, verset 23, « Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, raison, fils d'Eliada qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. » Donc c'est un rebelle, c'est un dissident syrien qui est en bagarre avec son roi, Hadadézer, et qui va en Égypte aussi. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y aura des complicités. Et regardez bien en Syrie actuellement, toutes les bagarres contre Bachar el-Assad, tous ces groupes qui ont défilé pacifiquement dans la rue, il y a ça 10 ans, ils ont reçu des armes et des leaders, des soldats d'Égypte, les frères musulmans, pour mener la bagarre contre le roi de Syrie. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. L'histoire se répète, comme une grippe se répète, une angine se répète si on n'est pas prudent. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allèrent à Damas. Ils s'y établirent, ils régnèrent à Damas. Donc ils prennent le pouvoir, comme aujourd'hui, tous ces gens-là, hein, animés par les frères musulmans d'Égypte, veulent prendre le pouvoir. Ils ne prennent pas le pouvoir pour le moment, parce qu'il y a la Russie et la Chine qui soutiennent Bachar el-Assad. Mais n'empêche, c'est le même scénario. Verset 25, il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, et en même temps, Kadat lui faisait du mal, il avait Israël en aversion. En aversion. Quoi qu'en soit, ça sera toujours pour les détruire. Hein? Alors, verset 26, troisième ennemi, Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Oui, c'est un homme costaud et tout. Salomon a vu qu'il était efficace, il l'a mis surveillant de tous ses ouvriers. Vous pouvez lire tout ça, c'est un malabar, c'est un homme efficace. Et bien sûr, un jour, ben Salomon lui fait des remarques, et ce bonhomme, Jéroboam, essaye de le frapper. Pif paf. Et bon, heureusement, Salomon échappe. Mais Ajija de Silo, un prophète de la ville de Silo, vient revêtu d'un manteau neuf. Hein? Et il va dans le champ tout seul avec Jéroboam et il lui dit, voilà, hein, avec un beau manteau, lui dit, déchire ce manteau en 12 morceaux, prends-en 10 morceaux pour toi, j'en garde 2 pour Salomon. Voilà, Dieu te donnera 10 tribus et Dieu en laissera 2 à Salomon, à son descendant. Ok? Parce que Salomon a péché lourdement contre Dieu. Ajija de Silo vient prophétiser. Et effectivement, Jéroboam doit se sauver en Égypte, de nouveau en Égypte, trouver des comparses, des partenaires, etc., des soutiens, et puis pour revenir un jour. Alors, je lis simplement pour faire vite le verset 35. « J'ôterai le royaume de la main de son fils, je t'en donnerai 10 tribus, je laisserai une tribu à son fils, donc Judas, mais il y a aussi Benjamin, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. » Donc il y a la persistance de la promesse de Dieu pour les descendants de David. La persistance de la promesse de Christ, la promesse d'un royaume messianique, du Messie. Une lampe devant moi, Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Donc, il demande quand même à cet homme d'honorer Dieu. Et il dit, en échange, j'humilierai, verset 39, j'humilierai par là la postérité de David, mais ça ne sera pas pour toujours. L'humiliation va être provisoire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce Roboam, lui, va, le fils de Salomon, il va devenir, en principe, devenir roi de 12 tribus. Il va être sollicité par toute la foule, de toutes les tribus, pour dire « Diminue les impôts, ton père nous saignait, prenait trop de sous, etc. Diminue !» Et Roboam va trouver des gens autour de lui, ils disent « Non, il faut augmenter les impôts. » Ok ? Comme aujourd'hui, hein ? Tous les fonctionnaires, tous les gens qui entourent nos dirigeants disent « Augmentons les impôts. » Et ça, les gens l'ont là. Hein. Les gens l'ont là, comme à l'époque. Au lieu de comprendre le peuple et d'alléger son joug, on augmente le joug. Alors, au verset 11, que répond le fils de Salomon à cette foule, à tous ces notables, à tous ces responsables religieux et sociaux de toutes les tribus. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Regardez bien en Israël, en Europe comment ça se passe pour le moment. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Les vieillards avaient dit non, il faut calmer le jeu. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Etc. Donc, augmentation des impôts. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Scission. Scission politique du pays. Verset 20. Tout Israël, donc les 10 tribus du nord, ayant appris que Jérusalem était de retour. Verset 20. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour. Il l'envoya rappeler dans l'assemblée et le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda et Benjamin fut seule qui suivit la maison de David. Donc, Roboam va avoir le désir de faire la guerre et d'aller massacrer les 10 tribus. Eh bien, Dieu lui interdit. Dieu lui interdit. Après ça, au verset 25, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Il y demeura, puis il en sortit et bâtit Penuel, donc des villes. Avec des autels, etc., des prêtres, des faux prêtres. Verset 26, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si tout ce peuple monte encore à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, 3 fois par an, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Interdiction de passer à Jérusalem, d'aller prier. Il va faire autre chose. Hein? Il va faire autre chose. Verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel, il met l'autre à Dan. C'est quoi les veaux? Des vaches en or avec le disque. Amon-Ra, la déesse de la fertilité égyptienne. Vous voyez que ce bonhomme, Roboam, qui a vécu en cachette, en clandestin, en Égypte, a ramené le culte d'Égypte dans le peuple juif. Vous vous rappelez que Moïse, quand il est dans la montagne, 40 jours, qu'il jeûne et qu'il prie, qu'il reçoit 10 commandements, Aaron, son frère, le grand prêtre, fait une vache en or, avec tous les bijoux, les bagues, etc. Vous voyez que l'attaque spirituelle est énorme, et il y a un schisme religieux. division politique, schisme religieux, idolâtrie. Est-ce qu'en Europe, actuellement, on ne tombe pas dans l'idolâtrie générale ? C'est incroyable l'idolâtrie qui est en train de se répandre. Regardez les journaux, regardez tout, regardez dans les films. Les dernières pages des journaux, avec les voyants, etc. Les médiums. Et dans tous nos villages, il y a des voyants. Dans tous nos villages, il y a des voyants. Avec un chiffre d'affaires global énorme. Donc, vous avez ici une dégradation totale de la vie d'Israël. Et bien sûr, il y a une sanction de Dieu sur Jéroboam. C'est que Jéroboam, vu qu'il a provoqué un schisme spirituel, Dieu l'avait autorisé à une scission politique pour un certain temps. Mais lui, il a fait un schisme spirituel, il a amené l'idolâtrie, la perversion des mœurs. Alors Dieu va sanctionner. Et le fils de Jéroboam va tomber malade. Ça, c'est le chapitre 13. Et Jéroboam va envoyer secrètement sa femme avec l'enfant malade à Bethel pour que des prêtres, des vrais prêtres, pas les faux prêtres qu'il avait instaurés à Samarie, Sichem, prient pour l'enfant. Mais non, pas du tout. Il va mourir. Sanction très dure. Sanction et condamnation. Si vous voulez lire ça, c'est au chapitre 14, verset 1 à 19. Donc, Dieu a permis une sanction politique, il n'a pas permis un schisme religieux. Et Dieu va donc punir Jéroboam pour l'idolâtrie, la perversion religieuse qu'il a apportée. Les amis, j'ai pris tous ces textes pour vous dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil et que nous pouvons analyser l'histoire de l'Europe de la même manière. De la même manière. Peuple chrétien, qu'as-tu fait de ton Christ ? Peuple chrétien, qu'as-tu fait du Saint-Esprit ? Peuple chrétien, qu'avez-vous fait de la Bible ? Qui adorez-vous, peuple chrétien ? N'est-ce pas ? Au chapitre 14, c'est donc la mort de Jéroboam, sa disparition, et puis ensuite il y a la mort de Roboam. Et bien sûr, il va y avoir une succession de rois. Il va avoir à peu près 17 rois dans la tribu de Juda et Benjamin. Il y en a 3-4 très bons, fidèles à Dieu. Sur l'autre côté, il y en a une bonne vingtaine, pour les 10 tribus du Nord, tous des tordus, mais tordus jusqu'à l'os. Idolâtres plus les uns que les autres. Et tout ça à cause de la perversion de Jéroboam qui a été en Égypte. Et regardez bien, tous les ennemis d'Israël ont été couvés, comme des œufs de serpent sont couvés, en Égypte. Et tous les conflits aujourd'hui de le Moyen-Orient sont couvés en Égypte, avec les frères musulmans. Et en Arabie, avec les wahhabistes. Rien de neuf sous le soleil. Pour diriger tous les peuples dans une aversion profonde d'Israël. Cette aversion va amener la réalisation de Ézéchiel 38 et 39. Et si vous regardez bien, Dieu a permis qu'il y ait cette haine sur Israël, en Ézéchiel 38, parce que Dieu va châtier ses peuples et démontrer qu'il n'a pas besoin des chars et de la bombe atomique en Israël. Démontrer à Israël sa puissance. Mes amis, j'ai pris ça, c'est parce que la Bible nous donne des enseignements profonds sur la politique, sur la morale, sur la foi. La Bible est pleine d'enseignements. Dieu veut nous instruire par sa Bible. Dieu veut nous ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe. À nous, mes amis, à nous d'avoir la vraie sagesse. La vraie, pas celle du monde. Pas celle du monde, mes amis. Et la sagesse du monde a beaucoup trop envahi les églises. Beaucoup trop. Il faut faire attention. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur d'avoir de l'amour pour lui, de l'obéissance, 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 l'obéissance.